Bien, je vais commencer. Il est évident que je vous prie tous, et notamment les auditeurs qui sont dans une salle de l'autre côté du couloir et qui est simplement sonorisée, d'excuser l'inconfort de ces séances. Malheureusement, il n'y a absolument aucun moyen d'y remédier. Il n'y a pas de salle plus grande au collège, et quand bien même on pourrait dédoubler la salle avec un système de télévision, comme ça se fait quelquefois, ça n'est pas possible actuellement, et de toute manière, à mon avis, l'inconfort subsisterait. Donc il faut s'accommoder de cette situation. Mais je voudrais rappeler que la dernière fois, j'ai entrepris de présenter un peu la façon dont nous allons procéder pour ce cours sur le comment vivre ensemble. J'ai commencé par opposer, selon une opposition nietzschéenne présentée par Deleuze, j'ai rappelé l'opposition de la méthode et de la paideia, en indiquant que je souhaitais plutôt m'installer ou nous installer dans la paideia plutôt que dans la méthode. J'ai rappelé qu'il fallait demander pour la recherche, car ceci est l'exposé d'une recherche, ça n'est pas à proprement parler ni un cours ni une leçon, c'est une recherche qui est en train de se faire. Il fallait donc accepter que la recherche soit inaugurée par ce que j'appelle un fantasme de celui qui entreprend la recherche, et j'ai indiqué que pour moi, ce fantasme du comment vivre ensemble était lié d'une façon très précise à un mot que j'ai rencontré par hasard dans un livre, un mot un peu savant, un mot de la langue religieuse, de la langue monastique, à savoir le mot idiorythmie, c'est-à-dire vivre ensemble à peu d'individus, à peu de sujets, et comme le nom l'indique, chacun à son rythme, de façon à poser le fantasme d'une sorte de vouloir vivre ensemble subtil. L'idiorythmie, ai-je dit, dont l'image est donnée par certaines petites communautés du Mont Athos, m'a fait dévier immédiatement la recherche, en partie, vers le monachisme, vers des lectures concernant le monachisme, mais plus précisément, non pas le monachisme conventuel, cénobitique, qui est le monachisme que nous connaissons depuis des siècles en Occident, mais plutôt le monachisme des ermites, érémitiques, ou semi-anachorétiques, c'est-à-dire un monachisme surtout oriental, tel qu'il s'est développé surtout en Égypte et à Byzance et en Syrie, alentour le IVe siècle. Et j'ai indiqué que ce siècle était, nous pouvions le considérer comme très important, bien au-delà de notre sujet, dans l'histoire universelle elle-même, puisque c'est dans ce siècle que s'est accompli le passage du christianisme comme religion des martyrs au christianisme comme religion d'État. Donc le christianisme est passé du dépouvoir au pouvoir, et c'est là, m'a-t-il semblé, quelque chose d'important qui devait être souligné. Et c'est là que j'en étais. Donc je continue. Donc les références au monachisme sous sa forme semi-anachorétique seront probablement assez nombreuses dans cette recherche. J'espère sincèrement que cela ne vous lassera pas trop, car vous n'êtes pas obligé évidemment de partager avec moi ce fantasme secondaire de culture. Et à ce sujet, je dois préciser ceci. Peut-être une sorte de théorie de la lecture, qui serait en un sens une théorie nouvelle, ou en tout cas on pourrait la creuser de façon à ce qu'elle soit nouvelle. Une théorie de la lecture serait possible aujourd'hui, qu'on pourrait appeler une théorie de la lecture contre-philologique. Il s'agirait d'accepter et de faire accepter, notamment pratiquement dans les instances d'enseignement, qu'il est permis de lire un texte en faisant abstraction du signifié en faisant abstraction du signifié de ce texte. Par exemple, je dis les choses brutalement, accepter et faire accepter qu'il est possible de lire les mystiques sans Dieu, sans référence à Dieu, ou en traitant, si j'ose dire, Dieu comme signifiant, alors que Dieu, s'il peut avoir une définition, vous savez que dans la théologie négative d'ailleurs il n'en a pas, mais s'il peut avoir une définition, Dieu ne peut être que le signifié absolu, puisqu'en bonne théologie, il ne peut être le signifiant de rien d'autre que de lui-même. Ce que veut dire l'expression « je suis celui qui suis ». C'est le signifié ultime, le signifié dernier. Eh bien, cette méthode de lecture consisterait précisément à lire des textes qui ont été, au moment où ils ont été écrits, c'est de l'autre côté que ça n'allait pas.
Hein? De l'autre côté, c'est un petit peu faible.
Oui, ah, c'est plutôt celui-là.
Oui. Je pense que ça devrait aller là.
Bon, alors, donc la méthode de lecture consisterait, par exemple, à lire les mystiques sans s'occuper du signifié Dieu. Ou bien, pour prendre un exemple beaucoup plus récent, on se mettrait à lire Sartre, ce que je souhaiterais d'ailleurs faire une fois dans un séminaire, prochainement, enfin l'année prochaine, je ne sais pas, on se mettrait à lire Sartre, disons en gros, sans le signifier engagement. Et je crois que ce qui se produirait alors, ce serait une sorte de lecture souveraine, car souverainement libre. Tout sur moi de lecture tomberait, car la loi vient toujours du signifier, en tant qu'il est donné et reçu comme dernier. On pourrait même admettre à partir de cette méthode de lecture une sorte de critère pour juger les textes. Il y aurait les textes qui, si on leur enlève le signifié, restent, subsistent, sont séduisants, accrochent, et les textes qui, si on leur enlève leur signifié, eh bien, il n'en reste rien. Vous pouvez faire ce test sur précisément des auteurs, disons, chrétiens, il y en a certes beaucoup dans notre culture. Prenez du Bossuet, par exemple, et lisez du Bossuet en faisant abstraction du signifié, vous verrez s'il reste quelque chose. Et je prétends qu'il reste quelque chose. C'est ça ma pensée. Et ainsi de suite. Ces effets d'une exemption de la foi, où qu'elle se trouve, y compris donc aujourd'hui, par exemple, la foi politique, qui dans bien des cas a remplacé la foi religieuse pour toute une partie de la caste intellectuelle, eh bien, les effets d'une exemption de la foi sont pour le moment incalculables et presque insupportables. C'est pour ça que c'est une théorie à venir. Car ce qu'il s'agirait de lever, de périmer, de rendre insignifiant dans cette méthode de lecture, ce seraient les générateurs de culpabilité. Et donc, il s'agirait de travailler à l'avènement d'une lecture sans refoulement, d'une lecture non refoulée. Il est, je dirais, moins refoulant de parler des moines sans se référer à la foi que de n'en pas parler du tout. À côté du monachisme, des matériaux de notre réflexion vont venir d'un autre corpus qui va être le corpus littéraire. La dénomination de cette chaire m'y oblige, puisque la chaire s'appelle sémiologie littéraire. Alors je vais me servir de quelques romans dans lesquels je prendrai des matériaux. Je voudrais dire à ce sujet que je considère les romans en général comme des simulations, au sens scientifique du terme, c'est-à-dire des expérimentations fictives sur un modèle. Et le modèle le plus classique des simulations, vous le savez, c'est la maquette. Le roman implique une structure, un argument, disons une maquette, à travers lequel on lâche des sujets, des situations. Or, il n'y a pas, dans ma mémoire, tout au moins, de maquettes romanesques de l'idiorythmie. Je ne connais pas de roman de l'idiorythmie. Et naturellement, je le dis très sérieusement, si certains d'entre vous en connaissent un, ou se le rappellent, eh bien, qu'ils veuillent bien me le dire. Mais de l'idiorythmie ou des problèmes de genre de vie, naturellement, il y en a dans presque tous les romans. Il y a dans presque tous les romans un matériel épars qui concerne le vivre ensemble ou son opposé paradigmatique, le vivre seul. Il y a donc dans tous les romans des bribes de simulation, comme dans une espèce de tableau confus où apparaît tout d'un coup un détail très net, fini, qui vient vous frapper. C'est exactement la définition, la disposition même du chef-d'œuvre inconnu de Balzac, où dans un fouillis de lignes qui n'ont pas de rapport, dont on ne comprend pas bien le rapport, tout d'un coup a été dessinée à la perfection une main ou un bras. Eh bien, dans une quantité de romans qui ne portent pas sur le comment vivre ensemble, tout d'un coup, vous aurez un détail ou un fragment qui portera avec beaucoup de précision sur un problème du vivre ensemble, et de cela nous nous servirons. Donc, j'ai pris quelques œuvres, donc j'ai tiré quelques matériaux qui intéressent le vivre ensemble. Mon choix, et vous allez le voir d'ailleurs, est tout à fait subjectif, vous le verrez parce qu'il est très hétéroclite, ou plutôt tout à fait contingent. Cela a dépendu de mes lectures, de mes souvenirs, et cet anarchisme des sources est justifié par le fait que je ne veux pas suivre une méthode, mais plutôt m'installer précisément dans une paideia, c'est-à-dire un champ d'exploitation des forces et des différences. Mais je le précise encore une fois, ces œuvres que je vais vous dire tout de suite ne doivent jamais être considérées en elles-mêmes. Il ne s'agit pas d'analyse littéraire portant sur ces œuvres. Les œuvres ne seront pas davantage prises en soi que l'année dernière ou l'année précédente à l'École des hautes études. Je me suis servi du Werther de Goethe pour aborder le discours amoureux, mais je n'ai jamais fait une étude du Werther de Goethe en tant qu'œuvre littéraire. Voilà. Voici quelles sont les œuvres dont je me suis principalement servi. J'en parle maintenant pour une fois pour toutes en tant qu'œuvre, puisque je ne vais plus en parler en tant qu'œuvre, mais simplement en tirer des détails de temps en temps. Je voudrais dire que, en forçant un peu, j'ai pu donner à ces 5 ou 6 œuvres principales, j'ai pu rapporter chacune d'elles à un lieu qui désigne un espace particulier du vivre ensemble ou du vivre seul. C'est comme si je pouvais donner à chacune de ces œuvres un sous-titre qui est emprunté au lexique de l'espace. Alors, je les donne, ces œuvres, et je dis un mot de chacune en désordre. La première, naturellement, elle ne va pas apparaître tout de suite dans la recherche, je ne sais pas à quel détail un jour elle apparaîtra. C'est le récit mis en ordre et orchestré par Gide, qui s'appelle « La séquestrée de Poitiers », qui est paru chez Gallimard, je l'ai lu dans la 18e édition, qui date de 1930, je crois que c'est un livre actuellement un peu difficile à trouver, puisqu'il n'est pas dans la Pléiade. Je pourrais donner comme lieu, c'est-à-dire comme indication de la maquette qui est représentée par ce livre, le sous-titre « La chambre ». La chambre, naturellement, la chambre solitaire, ce n'est pas la chambre conjugale, c'est, en termes monastiques, c'est celle-là, C-E-2-L-A, la cellule, ou en grec, kélion, K-E-2-L-I-O-N. Et dans l'édition de la séquestrée de Poitiers que j'ai, il y a même une photographie de cette chambre de la séquestrée de Poitiers. Je rappelle les faits. Vous savez que c'est l'histoire d'un fait divers que Gide raconte, un fait divers réel qui est survenu en 1901 et que Gide s'est contenté de monter les documents. Il n'y a pas une phrase de Gide dans le livre, mais en même temps c'est un récit d'une très grande force. Et à travers ce récit, qui sont des articles de journaux, des rapports de police ou de justice, on fait la connaissance d'un personnage tout à fait étonnant, qui est Mélanie, qui est alors âgée de 51 ans, qu'on découvre un jour enfermée dans une chambre, dans un état de crasse indescriptible, et qui est cependant soigneusement décrite. Et on la découvre ainsi dans une chambre d'une maison bourgeoise très cossue de Poitiers. Et depuis environ 25 ans, Mélanie est tenue enfermée dans cette chambre à volet et à fenêtre et à volet clos, et elle vit sur son lit, et elle est tenue enfermée là, dit l'accusation, par sa mère, Madame Veuve Bastian de Chartreux, qui est âgée de 75 ans, qui est la veuve d'un doyen de la faculté des lettres de Poitiers. Et il y a un frère qui s'appelle Pierre Bastian, qui a été un moment sous-préfet de Puget-Théniers, donc il s'agit d'une famille essentiellement bourgeoise. Les bonnes qui se succèdent dans la maison sont au courant de cette séquestration, mais un jour, c'est le galant qui est d'une nouvelle bonne, qui est en même temps l'ordonnance d'un officier, qui fait prévenir la police. Mélanie est transférée à l'hôpital, la mère est arrêtée, le frère est interrogé. Sur ce, la mère meurt en prison et le frère bénéficie d'un non-lieu. Car en fait, et c'est tout ce que veut suggérer le récit de Gide, il y a une incertitude, on ne sait pas bien et on ne sait pas jusqu'à la fin et on ne saura jamais si ce n'est pas Mélanie elle-même qui est, disons, folle, entre guillemets, selon les critères habituels de la normalité, si ce n'est pas Mélanie qui a voulu elle-même cette claustration. Et le récit fait en effet partie d'une collection de chez Gallimard, qui s'appelait alors « Ne jugez pas ». Donc Mélanie, pour nous, c'est un récit très intéressant, parce qu'on pourrait dire que c'est l'anachorète absolue, c'est l'ermite absolue, mais sans la foi, avec la folie à la place. La seconde œuvre dont je me servirai, très différente, elles sont toutes très différentes les unes des autres, c'est le roman ultra célèbre de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, qui s'appelle exactement « Vie et aventure » au pluriel de Robinson Crusoe, qu'on peut trouver dans la Pléiade. Je donnerai comme sous-titre, non pas la chambre, certes, mais le repère. Le repère. Vous savez que c'est un roman qui date de 1709, mais que ce roman a été écrit d'après une histoire vraie, celle d'un marin qui s'appelait Alexander Selkirk, S-E-L-K-I-R-K, qui fut déposé par son capitaine pour une faute sur une île de la mer des Antilles qui s'appelait l'île de Juan Fernandez et qui a été ramenée en Angleterre en 1701. Le roman, lui, se passe avant, l'histoire se passe au XVIIe siècle, puisque Robinson est né en 1632 et qu'il part d'Angleterre en 1651 pour toute une série d'aventures au terme desquels il fera ce naufrage qui va le précipiter seul sur une île déserte. Vous savez que c'est un roman, je voudrais simplement rappeler que c'est un roman, disons, historiquement très engagé, avec un substrat social et historique et idéologique très fort. Donc c'est un roman d'aventure qui a une extrême richesse sur le plan, je dirais même, d'une théorie de la littérature. C'est un roman qui est fait admirablement, qui serait fait admirablement pour des analyses de type Lukacien ou Goldmanien, car vraiment le roman là est dans un rapport dialectique avec le type de société et les problèmes de la société de cette époque. Disons que Robinson est le type même du capitaliste, du colon, du négrier, et qu'il est dépossédé de tout par un naufrage qui, évidemment, a la même fonction qu'une banqueroute. Il ne lui reste à ce moment-là qu'un couteau quand il débarque sur l'île. Et de là, il va remonter la pente, reconquérir, reparcourir tout le chemin de la culture et peu à peu coloniser et peupler son île dont il va devenir gouverneur. Alors nous retiendrons uniquement la première partie, c'est-à-dire avant les voyages en Europe, c'est-à-dire qu'une fois que Robinson est revenu à la vie sociale, il y a une seconde partie du roman qui se passe en Europe et qui ne nous intéressera pas, la partie où Robinson est seul sur son île avec à la fin l'adjonction de vendredi. Or, ceci intéresse le vivre ensemble, non seulement au titre de terme oppositionnel, à savoir la solitude, puisque Robinson est seul, mais aussi parce que Robinson affronte un problème d'adaptation qui est exactement, à mon sens, analogue à celui du vivre ensemble. Pour lui, les objets de la nature, les objets et la nature sont l'équivalent des sujets humains pour un sujet qui a à vivre avec d'autres sujets. Il vit donc avec les objets dans le même rapport d'adaptation qu'un sujet social vit avec un entour social. Il doit vivre en effet avec des forces, avec un jeu de résistance et de complicité, et je dirais, pour prendre un exemple grossier, que par exemple à un moment il est effrayé par le risque de foudre qui risque de détruire sa provision de poudre qui lui permet de chasser, n'est-ce pas, et donc de se nourrir, et à ce moment-là il divise et disperse sa poudre en plusieurs endroits. C'est une dispersion donc prudente et qui rappelle exactement la dispersion des charges affectives faites par certains sujets qui dispersent en quelque sorte la poudre de leurs sentiments ou de leurs passions, au lieu de l'investir dans un seul autre, dans un seul petit autre, le disperse, cette charge affective, à travers plusieurs relations divisées. Alors, d'une manière générale, Robinson a, à l'égard des objets ou des animaux, exactement les mêmes conduites, je ne dis pas les mêmes sentiments, les mêmes conduites et surtout les mêmes calculs que un sujet a à l'égard des autres sujets humains qui l'entourent. Voilà donc déjà deux œuvres, La séquestrée de Poitiers et Robinson Crusoe. Voici une troisième œuvre tout à fait différente, je les donne exprès en désordre. C'est une œuvre de l'Antiquité, enfin de l'Antiquité, de l'époque patristique, de l'Antiquité chrétienne. C'est un livre évidemment difficile à trouver qui s'appelle d'un auteur, c'est un livre écrit en grec, d'un auteur qui s'appelle en latin Palladius, P-A-L-L-A-D-I-U-S, ou en français Pallade, P-A-L-L-A-D-E. Et le livre s'appelle Histoire Lausiaque, L-A-U-S-I-A-Q-U-E, qui a été traduit vers 1912. Alors je donnerai comme sous-titre à ce livre, après la chambre, le repère, disons que ça c'est le désert. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un livre qui est dédié à un chambellan de l'empereur byzantin Théodose II, et ce chambellan s'appelait Lausus, L-A-U-S-U-S, d'où le nom Histoire Lausiaque. Ce sont des anecdotes sur les moines d'Égypte, de Palestine et de Syrie. Et l'auteur, c'est donc Pallade ou Palladius, qui a vécu à la fin du IVe siècle, qui a été évêque en Bithynie, sur le pont Euxin, c'est-à-dire dans le nord-ouest de l'Asie mineure, qui a fait des voyages en Égypte, à Alexandrie, et dans un désert qui était près d'Alexandrie, le désert de Nitri, N-I-T-R-I-E, qui a une très grande importance dans toute cette histoire de l'anachorétisme. Alors, j'ai pris ce livre parce que, d'une part, je trouve qu'il a un très grand charme, il a une drôlerie, une sorte d'innocence, et il est très riche en petites anecdotes, en traits, qui est dans mon vocabulaire à moi, disons, en signifiant, dont je me servirai peut-être assez souvent. Ensuite, deux autres livres. Maintenant, un livre qui a trait à l'autel comme lieu. J'en ai dit un mot lors de la leçon inaugurale. C'est le livre de Thomas Mann, La montagne magique, traduit chez Fayard en français en 1931. Je l'appelle l'autel, bien qu'il s'agisse, vous vous en doutez, d'un sanatorium-autel. Et cela renvoie à un espace du vivre ensemble qui est assez bien défini, dans toute une catégorie de lieux dans laquelle on pourrait mettre autrefois les sanatoria, les grands hôtels, les paquebots pour croisière, peut-être le club méditerranéen, je ne sais pas, je n'en ai pas d'expérience. C'est-à-dire une sorte de vivre ensemble hôtelier avec une structure très impressive, des chambres séparées plus un lieu de convivialité. C'est-à-dire un lieu semi-public qui engendre des relations intenses et passagères. Vous savez que ce livre a été écrit par Thomas Mann à la suite d'un séjour qu'il a fait dans une ville où on soignait la tuberculose en Suisse qui s'appelle Davos. Un séjour qu'il a fait en 1911, non pas pour lui-même, mais avec sa femme qui était malade. Le livre a été écrit en 1912-1913, il a paru en 1924, et l'histoire se passe, c'est ça qui est important pour moi en tout cas, l'histoire du héros, disons, Hans Castorp, se passe entre 1907 et 1914, puisque l'histoire est interrompue par la guerre de 14. On a dit que ce livre était un peu que Thomas Mann avait voulu écrire la contrepartie de Mort à Venise, et montrer là les séductions de la mort et de la maladie. Alors, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas à la leçon inaugurale, je rappelle que j'y ai indiqué que j'avais personnellement un rapport assez étroit et assez brûlant à ce livre. C'est d'une part un rapport projectif, puisque tout le monde le sait, je l'ai écrit. J'ai passé plusieurs années de ma jeunesse en Sana, principalement pendant la guerre, pendant l'occupation, dans un Sana français, au sanatorium des étudiants. Et donc, quand j'ai lu ou relu plutôt ce livre récemment, j'ai été frappé par j'ai eu une impression de projection extrêmement forte. Je me suis projeté d'une façon très forte dans le livre. À tout instant, par rapport aux mœurs sanatoriales, j'étais entraîné à me dire « c'est tout à fait ça ». C'est un livre qui, sur le plan, disons, de la description d'un référent, à savoir la vie en sana, est un livre exemplaire. Et puis, au second degré, ce livre a été pour moi, c'est ce que j'ai expliqué, il y a plus de huit jours, ce livre a été très dépaysant. En effet, je rappelle cet argument que ceux qui étaient à la leçon me pardonnent si je radote. Le livre décrit une tuberculose, décrit la tuberculose telle qu'elle existait et telle qu'elle était soignée en 1907, n'est-ce pas ? En 1907, puisque c'est le début de l'histoire. Or, personnellement, j'ai connu la tuberculose de 1942. Ça fait déjà deux tuberculoses différentes. Non, justement, elles ne le sont pas. Mais il y a une troisième tuberculose, qui est la tuberculose d'aujourd'hui, de 1977. Or, vous savez que entre 1942 et aujourd'hui, est intervenu un événement considérable pour les malades tuberculeux, à savoir l'invention de la chimiothérapie, donc de médicaments qui ont enrayé considérablement cette maladie et qui ont changé complètement le visage de ce mal, l'existentialité de la tuberculose. Or, ce qui m'avait stupéfié, c'est que la tuberculose que j'ai connue en 1942 était exactement la même, à très peu de détails près, de la tuberculose de 1907. C'est-à-dire qu'il y avait, c'est-à-dire qu'à l'occasion de cette lecture, j'ai senti que mon propre corps était plus proche du corps de Hans Castorp, le héros de la montagne, que du corps de quelqu'un qui actuellement se ferait soigner pour tuberculose. Et ceci m'a beaucoup frappé parce que j'ai compris que j'étais le témoin historique de quelque chose qui avait disparu. Mon corps est le témoin de quelque chose qui a disparu. Et cela a engendré toute une série de sentiments souvent douloureux. Et j'ai retrouvé dans ce livre, presque dans une atmosphère de cafard, de spleen, de mélancolie, d'angoisse presque, cet investissement extraordinaire qu'il y a dans un sana, qu'il y avait l'investissement très fort dans la relation humaine. La relation humaine est très, très fortement investie et en même temps dans un contexte, dans un fond de maladie et de mort. Le dernier livre dont je me suis un peu servi, c'est encore une fois très différent. Alors là, c'est un roman de Zola, peut-être l'un de ses plus beaux romans, c'est Peau bouille. Et là, l'intitulé, c'est L'immeuble, l'immeuble bourgeois. Vous savez en effet que Peau bouille, c'est le roman d'une maison bourgeoise de Paris, avec ses étages, chaque famille et chaque problème à chaque étage. Et c'est un roman très noir, n'est-ce pas, vous le rappelez peut-être, très zolesque, très noir. Et c'est tout le noir du vivre ensemble bourgeois. Alors naturellement, il pourra y avoir des traits pris dans d'autres œuvres, et ces œuvres-ci peut-être fourniront peu de traits. Ce sont les aléas de la recherche. Je n'ai pas fini encore avec la présentation, car je sens que je dois dire un certain nombre de choses avant de commencer. Vraiment, les thèmes. Alors maintenant, je voudrais dire ceci. Donc, il y a deux grilles de matériaux. Il y a ce qui a trait aux moines orientaux. Il y a ce qui a trait à quelques œuvres littéraires. Alors, je voudrais dire qu'il y a une troisième grille de matériaux qui, à vrai dire, est issue de la première, mais à un autre niveau, à un niveau terminologique. Et non pas à un niveau factuel. Cette troisième grille, c'est un réseau de mots, un réseau de mots grecs qui ont servi à pointer, à cristalliser des problèmes du vivre ensemble dans le monachisme oriental, mais naturellement nous ferons à tout instant des transpositions modernes. Alors, ce sont des mots assez nombreux, pour ma part, je me suis servi d'une trentaine de ces mots grecs. Nous allons les rencontrer au fur et à mesure. Pour donner un exemple de ce que je vise par réseau grec, je vous en donne un lambeau, par exemple. Je dirais que le vivre ensemble est articulé par trois statuts fondamentaux. Alors là, je donne les mots grecs, n'est-ce pas ? Je vais ensuite me justifier de cette espèce d'apparence de fausse érudition. Voilà. Donc, trois statuts fondamentaux, il faudrait que je les écrive, mais c'est peut-être un peu compliqué. Le premier, c'est la monosis. Monosis. C'est la vie solitaire. Monos, ça veut dire seul, mais attention, justement, monos et surtout monakos dans le vocabulaire religieux grec, ça ne veut pas dire seul, ça veut dire exactement célibataire, monakos. C'est seul du point de vue de la relation affective ou sensuelle. Alors la monosis, c'est la condition des ermites absolus. Par exemple, Antoine, n'est-ce pas, Saint Antoine. C'est le système antonien. Alors, le deuxième trait articulé, c'est l'anaphorésis c'est la vie, je vais en parler sinon aujourd'hui, en tout cas au début du cours suivant, c'est la vie loin du monde. C'est important pour nous parce que c'est là qu'on a les premières images de l'idiorythmie, justement. Et enfin, on pourrait forger un troisième mot pour la vie en commun de modèle conventuel. Ça serait la koinobiosis. Koinos veut dire en commun, biosis veut dire vie. Koinobiosis, B-I-O-Oméga-S-I-S. Voilà donc les trois statuts principaux du vivre ensemble à travers ce réseau grec. Et ces trois statuts sont traversés chacun par deux énergies, deux forces de mise en ordre. Il y a d'une part, nous allons revenir d'ailleurs sur tous ces mots, askésis, A-S-K-K-P-A-E-T-A-S-I-S, askésis, qui a donné en français ascèse, mais on a intérêt à ne pas penser ascèse, qui implique tout de suite une idée de contrainte d'austérité, n'est-ce pas ? Askésis, c'est l'exercice, à vrai dire. C'est l'exercice, c'est le dressage de l'espace, du temps, des objets. C'est par exemple le timing, c'est tous ces phénomènes de dressage du temps et de l'espace et d'objets, ça fait partie de l'askésis. Et la seconde énergie qui traverse tout cela, c'est évidemment le pathos, pathos que je traduirai par l'affect tel qu'il est peint par l'imaginaire. Tout ce qui relève donc de l'affect tel qu'il est vécu par le sujet à travers cette fonction importante de l'imaginaire que je prends en gros, n'est-ce pas, dans un sens. Disons, pourquoi ne pas être français? Pourquoi ne pas parler comme tout le monde? Pourquoi compliquer? Pourquoi sophistiquer? Pourquoi s'habiller d'un vêtement pseudo-érudit? Reproche sempiternel, n'est-ce pas? Le jour même où je prenais ces notes pour ce cours, à la suite d'un petit article dans une revue, je recevais une lettre agressive et ironique d'un lecteur qui me disait « Pourquoi ne parlez-vous pas la langue de tout le monde ?» Eh bien là, j'en rajoute, n'est-ce pas, puisque nous allons parler en partie une langue grecque, enfin pas très difficile à comprendre puisqu'il s'agit de quelques mots. Eh bien, pourquoi donc tout cela? Eh bien, je rappellerai ce que j'ai dit dans la leçon inaugurale, c'est que j'estime qu'il est bon que nous ayons plusieurs langues qui soient véhiculées dans et par notre propre idiome. D'abord, c'est une question de fait. Un idiome, par exemple le français, n'est pas monolithique, il n'est pas homogène, il n'est pas pur. Un idiome, une langue, comme le français, c'est une sorte de patchwork, c'est une rhapsodie. Et, à mon avis, rien n'est plus aberrant que les diatribes que l'on émet régulièrement contre le franglais, c'est-à-dire contre l'injection de mots étrangers dans la langue française. S'il n'y avait pas eu des injections d'idiomes étrangers dans la langue française, nous parlerions encore latin, pas, et encore. En tout cas, nous ne parlerions pas français. On ne peut pas donc avoir une espèce de culte exalté de la langue française et en même temps refuser que cette langue reçoive des mots étrangers. Car l'être d'un idiome, à supposer qu'on veuille défendre l'être, l'ontologie d'une langue comme le français, ce qui est discutable, mais on pourrait admettre, n'est-ce pas, que nous nous trouvions très bien dans notre langue. Et si nous voulons défendre notre langue, c'est une supposition, pour le meilleur et pour le pire, il faut bien comprendre que l'être d'un idiome n'est pas dans son vocabulaire, mais dans sa syntaxe, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas, si nous pensons à l'ensemble des sociolectes qui sont parlés dans la communauté française, ce qui sépare les Français les uns des autres, Ce n'est pas tellement le vocabulaire, ce n'est pas parce que j'emploie de temps en temps des mots un peu compliqués ou un peu pédants. Ce qui nous sépare, vraiment, c'est la syntaxe. C'est parce que la syntaxe qui est parlée, disons, par des jeunes dans un café autour d'un billard électrique, ce n'est pas la même syntaxe que moi, en tant que professeur, ou simili-professeur, enfin, je parle ici. Ça n'est pas la même syntaxe, et c'est là que passe la séparation. Donc, à mon avis, il n'y a pas d'autre solution que d'accepter que nous ayons, dans un même idiome, plusieurs langues. Parce qu'il faut qu'il y ait plusieurs langues, parce qu'il y a plusieurs désirs, et qu'il faut une langue par désir. Le désir cherche des mots, et il les prend là où il les trouve. Et puis les mots viennent aussi engendrer du désir, et puis aussi encore, les mots peuvent empêcher le désir. Eh bien, je n'ai pas en français de mots heureux, je dis bien de mots heureux qui sonnent bien, pour désigner un complexe de vie absolument solitaire ou de vie, disons, conventuelle. Je n'en ai pas. Je n'ai que des périphrases. Et à ce moment-là, si je trouve les mots monosis ou koinobiosis, eh bien, c'est comme si je découvrais ce qui convient à mon désir. La plurilangue à l'intérieur de l'idiome est un luxe, mais toujours, comme toujours, ce luxe n'est en quelque sorte que le besoin du désir. Et par conséquent, on doit réclamer la pluralité des langues à l'intérieur même du français, et on doit réclamer le droit de voler, de faire des vols d'un langage à un autre. Évidemment, en plus ou en dessous de ces principes, il y a des raisons techniques, de technique du sens, à emprunter des mots grecs. Premièrement, le déplacement des connotations. L'expression, par exemple, « vie solitaire », n'est-ce pas, ne connote aucune structure de règle. Ce n'est pas un être sémantique. Tandis que « monosis » connote la règle du monakos, c'est-à-dire du célibataire. Deuxièmement, le mot grec pointe un concept qui fait à la fois, pour nous, origine, image et dépaysement. Et c'est très important. Un mot grec, cela fait pour nous à la fois origine, c'est une origine, c'est une image et c'est un dépaysement. Et c'est, nous devons ménager dans le paysage de notre propre langue des perspectives de dépaysement. Enfin, troisièmement, le mot grec globalise une notion et l'emphatise. Il marque un résumé, une ellipse. Et de là assure une opération féconde de dépliement. D'une manière générale, ça serait un dossier à ouvrir, encore un sujet de troisième cycle pour ceux qui en chercheraient, ça serait le dossier des mots-concepts d'une langue insérés dans un autre idiome. Vous pensez bien que je vise ici l'énorme problème des mots allemands venus de Freud et qui sont importés dans la psychanalyse. Alors, tout le monde sait que ces mots venus de Freud et passés soit en allemand, soit dans un effort de traduction en français, engendrent une sorte de sophistique baroque et des arguties de traduction. N'est-ce pas ? On a lutté d'une façon sanglante, presque comme à l'intérieur d'une guerre de religion, autour du mot « tribe », n'est-ce pas ? Qu'on traduit par « pulsion » ou comme avec Lacan, par dérive. Pas pulsion et dérive, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, pour éviter d'avoir à prendre parti, on donne le mot en allemand, tribe. Et à partir de là, on peut s'arranger. Et ça, c'est extrêmement important. Pas, c'est extrêmement important de faire germer des mots étrangers dans notre langue, parce que c'est un travail à même le signifiant, qui est toujours préférable au travail sur le signifié. Enfin, je dirais un dernier argument, je ne sais pas si vous y serez sensible, moi j'y suis, c'est que la pseudo-philologie dont je parle, c'est-à-dire cet appel à des mots grecs par exemple ou à des mots latins pour nous, cette pseudo-philologie est lente. Recourir au mot grec, ça veut dire, en un certain sens, ne pas être pressé. Et parfois, pour développer le signifiant, comme une odeur, cette lenteur est nécessaire. Je dirais que dans le monde actuel, toute technique de ralentissement, de déploiement, de détour, de subtilisation, m'apparaît de plus en plus comme une technique subversive, ou sinon subversive, tout au moins progressiste. Dernière remarque que je voudrais faire maintenant, avant de passer au thème, au pluriel, et c'est la suivante. Donc, j'ai parlé du matériel, voici maintenant comment je vais le présenter. J'ai dit que le point de départ, c'était le fantasme ou un fantasme. Or, qu'est-ce que c'est qu'un fantasme ? C'est un scénario, mais un scénario éclaté. Un scénario qui est toujours très bref. C'est, je dirais, un fantasme, c'est la lueur narrative du désir. La lueur à travers laquelle le désir cherche à raconter quelque chose. Mais ça n'est qu'une lueur. Ce qu'on entrevoit, très découpé, très illuminé, mais immédiatement évanoui. Par exemple, un corps que je vois dans une auto qui prend un virage dans l'ombre. Un point, c'est tout. Ça, c'est un fantasme. Eh bien, aller faire un film avec ça, c'est impossible, n'est-ce pas ? Mais peut-être, justement, ce qu'on ne peut pas faire en film, on peut le faire en écriture. Et ça sera peut-être le sujet aussi d'un autre cours, une autre année, qui sait. Ça sera d'étudier ces formes d'écriture très brèves qui correspondent à des projections fantasmatiques et qu'on pourrait appeler d'un nom qui viendrait de Joyce, des épiphanies. Personnellement, je les appellerais plus modestement des traits. Et ces traits, c'est ce qui résulte de l'action du fantasme qui est comme un projecteur incertain qui balaye d'une façon saccadée des fragments de monde, de science, d'histoire, d'expérience. Alors à ce moment-là, le discursif, c'est-à-dire le discours que je tiens, n'est pas d'ordre démonstratif, n'est pas d'ordre persuasif, n'est-ce pas ? Je n'ai absolument pas l'intention de démontrer une thèse ou de persuader d'une croyance ou d'une position, mais ce discours que je vais tenir, il sera, disons, postulativement, non pas donc d'ordre démonstratif, mais d'ordre dramatique. D'ordre dramatique, toujours à la façon nietzschéenne, c'est-à-dire le dramatique, c'est ce qui met en avant le qui, le qu'est-ce qui, et non pas le quoi, le qu'est-ce que. Non pas de quoi s'agit-il ou qu'est-ce que c'est, mais qui veut cela, qui parle. Par conséquent, si on accepte ce départ, le cours, enfin j'appelle ça un cours pour simplifier, le cours doit accepter de s'accomplir par succession d'unités discontinues, peut-être très brèves, que donc j'appelle des traits. Et je n'ai pas voulu grouper, une fois de plus, ces traits en thèmes. Il y a là, me semble-t-il, de plus en plus, bien que l'usage social universitaire le requiert sans cesse, une sorte de manipulation hypocrite des fiches. Normalement, quand on fait un travail intellectuel, on fait certes des fiches, c'est-à-dire qu'on marque des traits sur des fiches, soit des références, soit des idées, puis ensuite on manipule ces fiches, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des tas, des paquets de fiches, et ça devient un thème. Mais je pense que cette manipulation est hypocrite. C'est exactement comme si on avait un jeu de cartes. Ce serait d'ailleurs intéressant de bien poursuivre la comparaison, n'est-ce pas ? Parce que il faut bien remarquer que le jeu de cartes, c'est-à-dire jeu au sens de game, action de jouer, je ne sais pas comment on dit en anglais le jeu, c'est-à-dire le paquet de cartes, comment ça se dit, set ou game, pardon, game, non, game c'est l'action de jouer, n'est-ce pas, bon, enfin vous, Vous avez compris. Pour cela aussi, on aurait besoin donc de l'anglais. Eh bien, le jeu, game, est toujours, un jeu de cartes est toujours normatif. Pourquoi ? Parce qu'il essaye de combattre, de remonter le désordre. Il essaye de reconstituer un ordre à partir d'un désordre. Et le jeu de cartes est normatif parce qu'il considère le hasard comme un désordre. Sa croyance de départ, c'est que le désordre des cartes, est, que le hasard des cartes est un désordre et qu'il faut remonter ce désordre pour en faire un ordre. Et c'est ainsi que dans tout jeu de cartes, il s'agit, à partir du désordre initial, de constituer un ordre qui d'ailleurs, comme le nom l'indique, est la plupart du temps un ordre familial. Il y a la famille des cœurs, la famille des piques, la famille des carreaux, etc. Eh bien, on fait un peu la même chose avec les fiches, n'est-ce pas, d'ordinaire. On a des fiches en désordre et on essaye de les grouper pour reconstituer une famille de fiches. À cela, on peut opposer une méthode anarchique ou un procédé anarchique qui consiste à battre les cartes et à les sortir comme elles viennent, ou à battre les fiches et à les sortir comme elles viennent. Et pour moi, maintenant, quand je travaille, tout groupement thématique, c'est-à-dire tout groupement des fiches en paquets, suscite immanquablement en moi la question de Bouvard et Pécuchet, à la suite de chacune de leurs lectures, pourquoi ceci, pourquoi cela ? Pourquoi grouper comme ça ? Pourquoi grouper comme ceci ? Pourquoi ? C'est pas, finalement, on ne voit plus pourquoi. Et je dirais que j'ai de plus en plus un réflexe de méfiance à l'égard de ce que j'appellerais pompeusement l'idéologie associative, qui est une idéologie du développement. La devise du joueur de cartes, c'est « je coupe », c'est-à-dire « je maintiens le hasard, je coupe », eh bien, je dirais que ça pourrait presque être notre devise, n'est-ce pas ? « Je coupe ». À chaque fois, « je coupe », c'est-à-dire que, en fait, je cherche à agir contre la fixité du langage. Le langage est fixe, c'est un instrument fixe, c'est un instrument de fixité, et j'essaye d'agir au niveau du discours contre la